RCF. M comme midi, Quentin Pourbé, François Bertin.
Dans M comme midi, nous accueillons Arnaud Meunier. Il est avec nous au téléphone, lui qui est directeur marketing de Transville. Transville, c'est le transporteur de la métropole valenciennoise. Arnaud Meunier, bonjour.
Bonjour.
Alors le réseau de transport Transville met donc à disposition des voyageurs un podcast, ce qui peut paraître assez étonnant. On attend du tramway de Valenciennes qui nous transporte d'un point A à un point B par exemple, mais on ne s'attend pas forcément à faire également un voyage sensoriel puisqu'il s'agit d'un produit son pour ainsi dire, ni même un voyage dans la fiction. Et depuis peu, vous mettez donc à disposition ce podcast sur vos lignes. D'où vient cette idée ?
En gros, elle vient des remarques de nos clients hein, qui nous disent souvent qu'ils ne savent pas quoi faire pendant leur temps de transport, que parfois ils trouvent que le temps est long. Et en fait, on s'est dit que finalement, on pouvait peut-être mettre à profit ce temps de transport pour aller découvrir, on va dire, d'autres biens, des biens culturels. Et pourquoi pas aussi, j'irais presque découvrir le territoire. Donc on a imaginé avec Wave Audio, en fait, qui est une société de production, un contenu qui a été clairement créé pour Valenciennes. L'auteur Jackie Schwartzman, donc, qui écrit un certain nombre de polars aux éditions du Seuil, est venu à Valenciennes, s'est vraiment inspiré pour faire une histoire qui fait que quand vous l'écoutez dans les transports en commun, finalement vous avez l'impression d'être au milieu des acteurs, au milieu de cette histoire, au milieu de ce polar qui est très comique, avec trois beaux acteurs qui sont Michel Jonas, Fanny Sidney et Mehdi Sadoun. Donc c'est vraiment une façon de répondre à nos clients qui nous disent parfois le trajet est un peu long. Eh bien voilà, cette fois-ci, en écoutant les 5 épisodes de Flashfinger, vous allez vous rendre compte que le voyage est moins long que d'habitude.
Oui, c'est effectivement donc Flashfinger, hein, le nom de cette création, une fiction burlesque hein, entre farce et polar,
oui.
dans l'esprit des frères Cohen ou encore de Guy Ritchie. Voilà ce qu'explique l'auteur de cette fiction, hein, Jackie Schwartzman. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'un tel sujet et puis d'une touche comme ça de burlesque à bord de vos transports? C'est un angle, un choix singulier.
Oui, c'est que clairement on voulait quelque chose qui soit, je dirais, assez populaire, qui puisse s'adresser au plus large public, aussi bien à un public jeune, actif que senior. Donc le polar est quand même ce qui parle le plus. Et puis on voulait quelque chose qui soit quand même souriant, parce que nous, on veut vraiment à ce que dans les transports en commun, on ait un peu ce côté fun. Enfin, je veux dire, quitte à passer du temps dans les transports, autant que ce soit agréable et que ce soit un peu distrayant quand même, quoi. Donc voilà, on était vraiment attaché à ces deux éléments, le côté populaire et en même temps ce côté un petit peu divertissant, d'où voilà ce choix de cet auteur, Jackie Schwartzman, qui est vraiment très drôle dans son approche, et puis aussi qui aime beaucoup ce côté humain. Il l'aime d'ailleurs tellement, en fait, lorsqu'il a visité nos entrepôts, en fait, il a été marqué par les équipes contrôle. Et en gros, il a repris carrément en fait un personnage qui est notre responsable sécurité contrôle, qui joue son propre rôle au final dans la fiction.
Une fiction donc qui s'appelle Flashfinger. On rappelle hein, qu'il s'agit d'un podcast à écouter dans les transports de la métropole valenciennoise, en particulier dans le tramway hein, du réseau Transville. C'est donc téléchargeable sur les téléphones avec un QR code qu'il s'agit simplement de scanner pour écouter cela. 5 épisodes de 10 minutes. C'est un format assez long au final, mais chaque épisode fait 10 minutes. Est-ce qu'on a vraiment le temps de se plonger dans cette aventure ?
Ah, totalement. Alors l'avantage, on travaille donc avec la plateforme YouBooks, qui est une plateforme dédiée en fait au contenu audio et aux livres numériques, ce qui fait que vous pouvez stopper et reprendre exactement à l'endroit où vous êtes arrêté sans aucun souci. Donc, vous pouvez soit consommer, je dirais, les 5 épisodes tout au long de différents voyages, ou alors en une seule fois. Et en fait, cette idée des 50 minutes, c'est un petit clin d'œil aussi. Denain Université, en gros, c'est 50 minutes de transport en tram, donc voilà, c'était aussi un peu un petit clin d'œil qu'on voulait faire. Et tout ça, c'est aussi lié au fait que cette année, on fête les 15 ans du tram à Valenciennes, qui est un événement important parce que le tramway a quand même beaucoup changé la mobilité sur le territoire de Valenciennes.
Mais alors pour nos auditeurs qui tous ne vivent pas à Valenciennes ou dans le Hainaut, si on se dit tiens ça a l'air sympa cette fiction, la Flash Finger, ce podcast, est-ce qu'on peut quand même l'écouter même si on rentre pas, même si on prend pas le métro, le tramway, pardon.
Bien sûr. En fait sur le site internet de Transville, en fait vous avez un lien direct vers la version web en fait de U-Books, qui fait que vous pouvez dans ce cas-là écouter à distance. Vous avez juste à vous inscrire un email et un mot de passe. Pas de carte bancaire, c'est totalement gratuit, et donc vous pouvez écouter à distance. Et je dirais, mais j'invite quand même ceux qui habitent pas très loin de Valenciennes à se dire, venez quand même un samedi découvrir la ville de Valenciennes et ses commerces et en profiter pour vivre également cette expérience dans le tramway, dans les bus, sans aucun problème de Valenciennes. Quoi.
Arnaud Meunier, vous êtes le directeur marketing de Transville, le transporteur de l'agglomération valenciennoise, un réseau qui s'étend sur 82 communes. Et on le rappelle, vous proposez désormais Flash Finger, une fiction à écouter à bord de ces transports, 5 épisodes en 10 minutes. Une question à présent de mon complice sur M comme Midi, il s'agit de François Bertin.
Et le podcast, ça me parle, ça me connaît. Alors, monsieur Meunier, vous annoncez donc déjà à la couleur, c'est gratuit, dans la vie, rien n'est gratuit, ça coûte, il y a un coût pour produire un podcast.
Oui, il y a un coût. Il y a un coût qu'on a partagé avec la plateforme U-Books. Voilà. Mais je ne pourrais pas vous donner le coût précis comme ça, mais oui, il y a un coût. La seule chose, c'est que le CIMOVE, qui est notre autorité organisatrice, nous soutient à chaque fois pour pouvoir faire des beaux projets, comme on a pu faire en 2019 avec la Coupe du Monde de football, comme on a pu faire avec les 15 ans du tram cette année. Voilà, sur des opérations assez fortes comme celle-ci, le CIMOVE et le groupe RATP viennent en soutien pour pouvoir financer de tels projets.
Alors, vous parliez de 5 épisodes de 10 minutes, et la suite, ça va être quoi? Ça va être encore plus de podcasts?
Écoutez, en tout cas, là, on est en partenariat avec U-Books pour que nos abonnés puissent utiliser cette plateforme pour avoir accès à du contenu, des livres audio, la presse ou des livres numériques. Et puis, j'espère en effet qu'il y aura une forte utilisation et beaucoup de retours positifs pour que, avec les autres acteurs de l'agglomération, que ce soit les offices du tourisme, la Cité des Congrès, je pense également à Rubica, enfin tous ces autres acteurs, on puisse imaginer d'autres partenariats pour proposer des contenus audio de qualité à nos voyageurs.
Ah si vous voulez des contenus de qualité, vous pouvez toujours télécharger l'application RCF et podcaster bien sûr M comme Midi tous les jours.
C'est, en effet, ça va dans ce lien. Il faut absolument que les gens utilisent les transports en commun pour profiter, pour découvrir d'autres choses et écouter la radio et fait également partie de ces avantages.
Eh bien, merci pour ces explications, Arnaud Meunier, vous qui êtes directeur marketing de Transville. On rappelle que vous mettez en place donc un podcast à découvrir à bord de vos transports. Il s'agit de cette fiction Flash Finger, l'histoire burlesque et fantastique d'un personnage qui se promène donc dans la métropole et qui il arrive des choses tout à fait sensationnelles. C'est à découvrir à bord donc du réseau Transville. Merci Arnaud Meunier.
Merci à vous. Et bonne journée.
M comme Midi, Quentin Pourbé, François Bertin.
Mercredi dernier est sorti dans les meilleures librairies, l'un des livres les plus attendus du moment et pour cause, son premier tome s'est écoulé à plus de 150 000 exemplaires rien qu'en France. Il s'agit de Sapiens, tome 2, les piliers de la civilisation que l'on doit à Yuval Noah Harari, à David van der Mullen et Daniel Cazanav. Et ces deux derniers sont aujourd'hui mes invités, ils sont en studio avec moi. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, 150 000 exemplaires en France, 30 traductions, 1 million d'exemplaires imprimés dans le monde entier pour le tome 1. Est-ce que vous attendiez un tel succès?
Non, pas vraiment.
Non. Enfin, on s'attendait à un gros accueil, mais à ce point-là, évidemment, non, c'est assez hors norme, on va dire. Tout ce projet est hors norme à tous les niveaux, donc c'est très étonnant, effectivement. Donc voilà, mais ça fait plaisir, on va dire.
Heureusement quand même, oui. Ça montre une certaine satisfaction du résultat et tout. Et vous dites hors norme dans tous les sens du terme, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite?
C'est-à-dire que on doit adapter un livre en quoi, en 240 pages en moins de 10 mois. Et donc là, déjà, c'est déjà très, très compliqué. On a une équipe assez grande, en fait, autour de nous. On a près de 12 à 14 personnes qui travaillent autour de nous. Alors, pas tout le temps, mais il y a des gens qui nous aident pour la documentation, qui nous aident pour les traductions, qui nous aident pour vraiment l'encadrement de ce projet qui ne se fait pas à la légère du tout, quoi.
Oui, c'est un vrai travail d'équipe. On est beaucoup.
Mais vous dites une dizaine, et réalisé en combien de temps? 10 mois seulement?
Oui.
10-11.
Ouais, 10-11. Ouais.
Ouais, 11 mois, allez.
Ouais.
C'est un projet titanesque.
Ben oui, puisque en fait, le projet, c'est de développer tout le livre qui fait, je ne sais pas combien il fait, je sais même, 480.
Ouais, 500 pages, quoi.
500 pages. Et une page du livre originel, c'est un ratio de 2,5 planches de bande dessinée. Donc on va.
C'est précis, hein.
Oui. Enfin, c'est précis. Oui, bah finalement. Mais c'est des genres de calculs qu'on est un petit peu obligé de faire pour savoir ce que ça va donner en tout, puisque le but est de tout transposer dans son entièreté. Donc notre bande dessinée est vraiment une transposition du bouquin originel.
Alors pour rappel, hein, tout démarre avec le livre original justement de Yuval Noah Harari qui se nomme Sapiens, une brève histoire de l'humanité, que même Barack Obama, ancien président des États-Unis, annonce comme le plus intéressant qu'il n'a jamais lu sur l'histoire de l'humanité. Mais messieurs, comment vous êtes arrivés sur ce projet d'adaptation?
On nous l'a proposé.
Tout simplement.
Ouais. Oui.
Oui, voilà. Oui, ça se fait comme ça souvent. Oui, Martin, notre éditeur là, chez Albin Michel, nous a appelé, voir si on était intéressés, et David et moi, tout de suite, tous les deux, quoi. Et ça tombait bien, on l'avait lu.
Ça tombait bien, on l'avait lu, et ça tombait bien aussi, on s'était dit, tiens, ça serait formidable à faire, c'est un genre de projet impossible. Mmh. Et donc...
C'était comme un rêve, en fait.
Oui. Mmh. Et je crois que quelques jours plus tard, Martin Zeller nous contactait, effectivement. C'est très, très étrange comme histoire.
On a l'impression que vous y croyez toujours pas.
Mais, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de... c'est sûr que... vendre 1 million d'albums, il faut pas, enfin tout ce genre de choses là, il faut pas y penser en fait, parce qu'on a encore 3-4 livres à faire et que il faut s'y mettre, quoi, et il faut pas réfléchir, il faut pas regarder, il faut pas écouter les la réception trop, il faut pas trop s'en informer parce que tout cela est très serait très déroutant sinon. Donc nous, on reste très sérieusement dans notre travail de bon faiseur, en fait.
Finalement, vous pourrez en profiter quand le 6e sortira, c'est ça?
Il n'y aura pas de 6e.
Non.
Mais j'en profiterai quand même.
On sera desséchés au 6e.
Ouais.
Alors, c'est une collaboration israélo-belgo-française, incroyable. On sait à quel point l'œuvre de Yuval est importante et comment elle pèse sur la vision du monde actuel. Mais comment on fait pour restituer au mieux ce que Yuval a écrit pour le mettre en bande dessinée? Vous le disiez tout à l'heure, le ratio, c'est pour une planche, c'est 2,5 pages. Comment vous faites pour retranscrire au mieux?
C'est dans l'autre sens.
Dans l'autre sens, pardon.
Ouais.
Une page, oui.
Ouais.
Comment c'est... vous faites pour restituer au mieux?
En fait, je ne sais pas. Ça ne s'explique pas, en fait. Et c'est ça toute la beauté du métier de bande dessinée. C'est qu'en fait, ça ne s'explique pas. On ne sait pas comment... Il y a des écoles, par exemple, de bande dessinée à Saint-Luc, à Angoulême, à Strasbourg. Les promotions, les élèves ne sortent pas. Il n'y a pas 32 élèves qui sortent et qui font des livres et qui deviennent professionnels. Ça veut bien dire qu'après un cursus de 3-4 ans, il n'y en a que 2 ou 3 maximum qui deviennent professionnels. Et encore, ça, c'est une bonne saison. Donc, en fait, ça se transmet pas, ça s'explique pas. Je crois que c'est une sorte de feeling. Et il y a le fait que Daniel et moi, on avait déjà beaucoup travaillé sur l'adaptation de sciences humaines en bande dessinée. C'est quelque chose qui nous a toujours intéressé et qui est un, une part un peu spéciale, un peu particulière et singulière dans le fait de faire de la bande dessinée. Et donc voilà, donc on a fait ça de façon un petit peu insouciante.
Complètement insouciante même. C'est pour ça qu'on le fait.
Et justement, Daniel Cazenave, est-ce que votre façon de travailler en solo et là en duo, voire en trio, ça change totalement la donne?
Oh, pour le dessin, non, c'est toujours la même chose. Non, non, ce qui change, c'est l'aspect de travail d'équipe qui est un peu plus poussé là. Et comme disait si bien David, nous, on a vraiment, David et moi, on a vraiment l'habitude depuis des années de bosser ensemble. Donc, je sais très bien ce qu'il va écrire. Bah, je sais pas tout à fait bien ce qu'il va écrire, mais je sais d'avance vraiment pas mal de trucs, ce qu'il va me proposer. Et j'ai l'habitude, je sais comment il veut. On n'a pas besoin d'en parler pendant des heures. Je sais très bien ce que veut David. Et donc, c'est pour ça que ça va vite. Parce qu'on se connaît bien.
Faites attention, on dirait un vieux couple.
Mais nous sommes un vieux couple.
C'est pour ça que ça marche alors. Et justement, les professeurs ont parlé d'école tout à l'heure, notamment celle de Saint-Luc. Les professeurs d'histoire citent beaucoup votre œuvre. Est-ce que vous pensez qu'à travers cette bande dessinée, vous allez réussir à conquérir le cœur des plus petits, peut-être qu'ils ne sont pas férus d'histoire?
Pourquoi pas? En fait, on a une. On s'est interdit de penser à notre. À un lecteur type. Donc, on ne fait pas une bande dessinée pour une classe d'âge, donc pourquoi pas. En fait, on se rend compte que les gens qui achètent notre bande dessinée, il y a vraiment de tout. Il y a autant des gens qui ont déjà lu le livre avant, d'autres qui dont le livre faisait peur parce qu'un gros livre de 500 pages de sciences humaines, ça peut intimider certaines personnes et ça se comprend. Et qui se disent avec la bande dessinée, je vais être m'acclimater plus facilement. Il y a plein de cas de figure en fait très étonnants.
Ouais, il y a pas mal de gens aussi, je pense, qui ont dû caler dans le bouquin Duval et qui se disent tiens, par la bande dessinée, j'y arriverai peut-être plus facilement.
Oui. Et puis il y a cette facilité de cet atout de la bande dessinée que les images s'impriment mieux dans la rétine, on retient mieux et on comprend peut-être plus facilement en fait. Moi, je pense que le livre original de Yuval, il est écrit de façon assez simple en fait, et souvent on reprend même pas mal de phrases telles quelles. Donc c'est pas un livre difficile, mais c'est un livre qui a énormément de matière et que après 100 pages, 200 pages, je pense que les gens saturent dans les infos en fait. Il y a beaucoup d'infos. Et peut-être que la bande dessinée amène ça de façon plus douce.
Vous êtes un petit peu des facilitateurs en fait de compréhension.
Ouais, c'est si bien, c'est ça, pourquoi pas.
Oui, c'est très bien ça.
C'est un petit peu comme ça que j'ai appréhendé la bande dessinée. C'est peut-être, je ne serais peut-être pas allé sur le livre original, mais avec votre version, au moins, je comprends bien mieux les choses. Et c'est comme ça que je vous ai trouvé, c'est des facilitateurs de compréhension.
Ah bien, écoutez, on prend.
Oui.
Alors, tout au long de cette bande dessinée, on retrouve Yuval, qui est dépeint comme une personne jamais contente de l'évolution, qui pense surtout à prendre en compte à la fois la souffrance pour arriver à l'évolution et le bonheur individuel. Est-ce que votre vision du monde a changé avec la théorie de l'auteur ?
Fichtre. Non, pas du tout, non.
Je ne pense pas forcément, mais c'est vrai qu'on a des sujets. Il y a des points d'attention qui intéressent Yuval, qui, effectivement, on y pense un peu plus grâce à lui. Donc voilà. Mais sinon. En gros, quand même, si on fait ce livre, c'est parce qu'on
partage, on partage ses idées. Les idées du Val, sinon on ne le ferait pas.
En revanche, certains points m'ont fait un peu peur sur l'évolution et je me suis posé quelques questions sur les 50, 100 dernières années, sur les évolutions qu'on a pu mener. Et ça peut quand même faire peur. Quel est votre regard sur le monde actuel quand on voit l'évolution et comment ça a pu changer les choses?
Ah oui, mais on ne traite pas là pour l'instant, c'est dans le dernier tome ça.
Une petite exclue alors de ce dernier tome.
Je ne sais pas, c'est vraiment... En fait, il faut vraiment savoir qu'on est la tête dans le guidon et qu'on fait page par page, en fait, quoi. Et donc, on n'est pas du tout dans... On sait absolument pas comment on va aborder les prochains tomes encore, en fait.
Alors, il n'y a pas moyen de sortir de l'ordre. Imaginez, quand nous abattons les murs de notre prison et courons vers la liberté, nous courons juste dans la cour plus spacieuse d'une prison plus grande. Alors, c'est à la fois une belle réflexion sur la condition humaine, mais cela pourrait créer un sentiment un petit peu de pessimisme pour nos amis auditeurs qui font se réjouir de lire ça. Qu'est-ce qu'on peut garder d'optimisme à la fin de cette bande dessinée?
Mais je ne sais pas si c'est pessimiste. En fait, moi, je ne trouve pas ça pessimiste du tout, en fait.
Enfermé dans une prison, je ne trouve pas ça trop pessimiste. Enfin, pas trop optimiste.
Oui, mais enfin, il faut quelque chose d'imaginer. Enfin, par exemple, si on annule la monnaie, l'euro, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui va se mettre au-dessus. Et ce sera, on appellera ça, je ne sais pas, le Bitcoin ou ce que vous voulez, et c'est que tout le monde devra, une majorité devra y croire, et ça va exister, et la fonction humaine fait que nous sommes faits pour croire à des choses tous ensemble. C'est ça qui fait société, c'est ça qui fait groupe, en fait.
Justement, nous sommes sur RCF et il y a une phrase qui m'a interpellé et qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est « Le christianisme n'aurait pas duré 2000 ans si les dirigeants n'y avaient pas vraiment cru à un moment. » Et vous faites même le parallèle avec les banques et le capitalisme. Finalement, si on y croit, ça avance et ça évolue.
Oui, alors là, c'est la vision de Nouvelle, mais le christianisme, par exemple, c'est presque moins un accident de l'histoire.
Ouais.
Cette petite secte juive d'Orient... qui, grâce à l'empereur Constantin, va se répandre dans l'Empire, c'est pas gagné d'avance. C'est vraiment du hasard.
Ouais, le hasard fait bien les choses, puisqu'aujourd'hui on est sur RCF et ça poursuit.
Justement, puisqu'on est là pour en parler.
Donc c'est bien, le hasard fait très très bien les choses. Et dans la version bande dessinée, il y a aussi beaucoup de références modernes à notre culture actuelle, comme la possession de biens avec Cindy et Bill, ou bien encore avec un Better Call Franz sur une carte de visite qui reprend donc le titre de Better Call Saul, une célèbre série. Quelles ont été vos libertés au niveau de l'imagination, de la création, et qu'est-ce qui a été limité aussi?
Mais en fait, c'est une liberté totale, si ce n'est qu'il a fallu trouver des idées qui fassent sens de façon internationale. Dès lors que nous sommes traduits en près de 37 langues sur tous les continents, et donc il a fallu trouver des références culturelles qui soient connues sur tous les territoires, en fait. Par exemple, j'avais une fois une idée de faire un détournement des Feux de l'amour, la série de romance télévisée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en Asie, ça n'a jamais été diffusé. Ils connaissent pas ça en Chine.
Ils en ont de la chance.
Donc voilà. Et donc, en fait, on se dit en Afrique, en Scandinavie, en Amérique du Nord et du Sud, tout le monde connaît les Feux de l'amour. Mais en fait, j'ai dû remettre mon idée dans ma culotte parce que c'était pas possible. Voilà.
C'est bien imagé. Alors, on le disait, ça vous a pris plus de 10 à 11 mois pour créer ce deuxième tome. On imagine qu'il va y avoir encore une suite. Messieurs, est-ce que vous avez encore le temps pour vos propres carrières et quels sont vos futurs projets?
On n'a pas le temps.
On n'a pas trop de temps, non. Non, ça prend plutôt.
Ça prend. Non, c'est quand c'est vraiment un travail de tous les instants. Donc, en fait, on est dans une sorte d'exclusivité. Bon, là, maintenant, on est un peu en pause. Donc, moi, je travaille ma série Fritz Haber, qui est ma série personnelle. Et Daniel s'occupe parce qu'il doit s'occuper.
Oui, je m'occupe aussi.
Et donc, voilà. Et puis, on va très vite s'y remettre. Dans quelques mois, on s'y remet pour un long tunnel.
Très long.
Oui, parce qu'on va en faire plusieurs à la suite. Ouais.
Ah là, vous êtes parti pour faire plusieurs tomes à la suite pour être...
Ah ouais, comme chez Julien Lepers.
Bon, ça sera trois à la suite, alors, à mon avis. En tout cas, merci beaucoup David Van Der Meulen et Daniel Cazanave d'être venus dans nos studios de RCF. On parlait bien sûr de Sapiens, tome 2, Les piliers de la civilisation, qui est disponible depuis mercredi dernier chez Les Bons Libraires. Merci messieurs.
Merci à vous.
M comme midi, Quentin Pourbet, François Bertin.